Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Il s'appelait George Floyd, il avait 46 ans. Il est mort asphyxié suite à son interpellation par la police de Minneapolis. Une arrestation filmée par une passante. Un mort de plus, un mort de trop parmi la communauté noire. Depuis, la colère gronde dans les rues des États-Unis et ailleurs. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et on va revenir sur ce fait divers, sur cette bavure policière qui enflamme des États-Unis de plus en plus divisés et inégalitaires. I can't brace. Stop killing us. Justice for George Floyd. Black Lives Matter. Je ne peux pas respirer. Arrêtez de nous tuer. La vie des Noirs compte. Depuis ce 25 mai, les manifestations se multiplient aux États-Unis, mais aussi à Berlin, Paris, Londres ou Auckland pour protester contre la multiplication des violences policières, notamment contre la population afro-américaine. Et c'est toute l'Amérique qui sort du confinement avec la gueule de bois sous la fumée des voitures de police en feu. Une nouvelle mauvaise semaine pour les États-Unis, selon l'animateur vedette d'ABC, Jimmy Kimmel, qui n'a pour une fois pas envie de rire.
Hi, it's Jimmy. It is Friday night, the end of another bad week in the United States of America. Last night in Minneapolis, there was a protest, as you know, that turned into a riot.
Bonjour Nicolas Rollin.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes correspondant des Échos à New York. Alors on va rapidement rappeler les faits. Que s'est-il passé ce 25 mai à Minneapolis?
Alors le 25 mai à 20h30, la police est appelée dans un quartier du sud de Minneapolis. Un homme est accusé d'avoir payé dans un magasin avec un faux billet de $20. Une patrouille de 4 policiers l'interpelle. Il s'agit de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans habitant dans le quartier. L'un des policiers le plaque au sol, le genou sur le cou. La scène dure à peu près 8 minutes. Des passants demandent à l'agent de s'arrêter car l'homme semble inconscient. Mais l'agent continue et ses collègues demandent à la foule de reculer. Les secours sont appelés, ils emmènent George Floyd. Mais la mort est constatée dès son arrivée à l'hôpital. Quelques heures plus tard seulement, la vidéo de l'arrestation est diffusée sur Internet. Des manifestations ont lieu dès le lendemain de la mort de Floyd à Minneapolis. La foule demande des poursuites contre les agents et la fin des violences policières. Mais très vite, la situation dégénère. La police charge et les manifestations tournent en émeute.
Vous êtes-vous rendu sur place pour les Échos? Quelle est l'ambiance à Minneapolis?
Alors, pendant plusieurs jours, ça a été extrêmement tendu avec des provocations de part et d'autre de la part de la police et des manifestants et de violentes émeutes le soir et la nuit. Ces jours-ci, la situation s'est un petit peu calmée. Un couvre-feu a été instauré et l'armée a été appelée en renfort. La police reste omniprésente dans les rues, les commerces se sont barricadés de peur des pillages. Alors chaque jour, des marches pacifiques continuent d'avoir lieu, les manifestants restent mobilisés. On voit des messages de soutien à George Floyd et à la communauté noire un peu partout. Et les débordements, quand ils ont lieu, ont surtout lieu le soir et dans quelques quartiers seulement. Mais certains présentent aujourd'hui de véritables scènes de guerre. Des bâtiments ont été entièrement brûlés, menacent de s'effondrer. Et les commerces abandonnés sont encore aujourd'hui la proie des pilleurs. Les autorités accusent des groupes extrémistes qui seraient venus d'autres villes des États-Unis. Mais il faut signaler que dans le quartier de Powderhorn, où George Floyd a été tué, les habitants sont restés très dignes. Ils ont eux-mêmes coupé la circulation des rues pour assurer la sécurité du quartier. La police n'y est pas présente. Et l'hommage à George Floyd est en quelque sorte préservé. On y voit même des volontaires distribuer de la nourriture aux passants. Et si on y scande parfois des revendications politiques, l'heure est encore au recueillement aujourd'hui. dans ce quartier de Minneapolis.
Nicolas, je voudrais parler de quelque chose avec vous. Cette ville de Minneapolis, elle a beaucoup fait ces dernières années pour réduire la discrimination et les inégalités.
Oui, Pierrick, c'est une ville assez ouverte, multiculturelle, qui a accueilli de nombreux migrants ces dernières années, en particulier une forte communauté somalienne et d'autres pays d'Afrique, mais aussi des latino-américains. C'est une ville très progressiste, contrôlée par les démocrates depuis près de 50 ans et aujourd'hui dominée par l'aile gauche du parti. Les inégalités y sont plutôt moins fortes que dans d'autres grandes métropoles américaines. On a la présence de nombreuses très grosses entreprises comme Target, Best Buy, United Healthcare. Et en fait, cette politique progressiste a organisé une espèce de redistribution fiscale qui obligeait les comtés les plus riches à reverser une partie de leurs excédents fiscaux aux comtés les plus pauvres. Et une politique de mixité sociale assez volontariste a été développée avec de nombreux logements sociaux. Depuis quelques années, toutefois, ce modèle semble un petit peu à l'arrêt. On voit de plus en plus de tensions et certains ont noté depuis assez longtemps la persistance d'un problème de diversité au sein des forces de police.
The wave of violence has now washed across 29 cities. From New York, Los Angeles, New Orleans, Seattle and Minneapolis, ground zero for that anger and outrage now being vented by so many Americans.
Et Nicolas, depuis la mort brutale de George Floyd, les villes américaines s'embrasent les unes après les autres, comme on peut l'entendre dans ce reportage de 7 News Australia.
Surrounded.
Officers being chased by the group here.
Their cars on fire. Looters take over. A Saturday night anarchy reigns through America.
Avec des scènes extrêmement violentes.
Oui, le mouvement s'est propagé de manière extrêmement rapide. Le lendemain des premières manifestations, des rassemblements avaient déjà lieu à Los Angeles ou à Chicago. Depuis, de violents heurts ont eu lieu aussi à New York, à Atlanta. Un homme est même mort dans les affrontements avec la police dans le Kentucky. Alors si le mouvement a pris aussi rapidement, c'est parce que la discrimination est présente partout sur le territoire américain. Même dans les villes les plus progressistes et les plus contrôlées par les démocrates. Et au désir de justice s'ajoutent aujourd'hui les frustrations sociales et économiques. La crise du coronavirus a plongé 40 millions d'Américains dans le chômage et les perspectives restent encore très incertaines.
So look at the scene here. This is a line of police making their way. They are forming a wall in front of the White House. Look behind them. You can see the flames burning in the park right in front of where the president is.
Selon l'AFP, il y a des manifestations dans plus de 140 villes aux États-Unis, mais je retiens surtout ces images d'une chaîne australienne suite à des heurts entre manifestants et policiers juste devant la Maison Blanche. La police fait barrière, mais on voit le feu brûler dans un parc tout près de l'endroit où est censé se trouver le président américain. C'est une image forte, Nicolas, presque inimaginable.
Oui, les images ont sans doute fait le tour de la planète. Washington a été le théâtre de graves incidents. Comme vous l'avez dit, la Maison Blanche a été cernée par les feux allumés par les manifestants. Le périmètre a dû être complètement bouclé et on a envoyé Melania et Donald Trump même quelques heures dans un bunker, ce que Donald Trump a ensuite démenti, mais plusieurs sources l'ont confirmé. C'est donc un symbole très fort des divisions de l'Amérique et de la haine qu'inspire le président américain dans une bonne moitié de la population américaine aujourd'hui.
Bonjour Véronique Le Billon.
Bonjour Pierrick.
Alors vous êtes aussi correspondante à New York. Quelle est la situation sur place ?
À New York, la ville est sous couvre-feu. Hein. C'est le premier depuis plus de 70 ans, donc c'est assez marquant pour la ville. Le premier soir, il y avait des ouvriers qui montaient à la hâte des plaques de contreplaqué sur les vitrines des magasins de luxe. Et au-dessus de leur tête, là, on avait le bruit d'un hélicoptère, donc une ambiance assez spéciale. Comme dans beaucoup de villes américaines, il y a des manifestations pacifiques tous les jours. Et puis le soir, il y a quelques casseurs. Le couvre-feu a d'ailleurs été renforcé. Là, il démarre maintenant à 8 heures le soir et la circulation est totalement interdite dans Manhattan toute la nuit.
Véronique, le fond du problème, au-delà bien sûr de la mort tragique de cet homme, c'est la montée des inégalités raciales aux États-Unis.
C'est en tout cas la persistance des inégalités raciales sur l'accès à la santé ou à l'éducation. Le gouverneur de New York disait l'autre jour que les dépenses d'éducation, c'était 36 000 $ par enfant et par an dans les quartiers riches de l'État et 13 000 $ dans dans les quartiers pauvres. Sur le plan économique, on avait un taux de chômage au plus bas en début d'année, et pourtant, un noir sur quatre ne travaillait pas ou voulait travailler plus. Voilà, si on veut un autre petit chiffre assez éloquent, on a par exemple encore un adulte noir sur six qui n'a pas de compte bancaire, alors que c'est moins d'un sur trente quand on est blanc. La Banque centrale américaine, là, récemment, a fait un constat assez amer aussi sur la décennie de croissance que vient de connaître les États-Unis, parce qu'elle a dit que, bah, voilà, même si le bien-être général s'est amélioré pour toutes les catégories, y compris les Noirs tout de même, les écarts entre races sont restés les mêmes depuis 7 ans.
Ces inégalités ont d'ailleurs été exacerbées encore par l'épidémie de Covid-19.
Alors, contrairement à la France, il y a beaucoup de statistiques ethniques aux États-Unis, hein, c'est un des points à souligner. Partout où vous allez, quand on, voilà, à l'école, chez le médecin, etc., on vous demande si vous êtes blanc, hispanique, noir, asiatique, si vous avez deux origines. Donc, ce que les experts de santé ont pu voir très tôt avec le coronavirus, c'est que les Noirs et aussi assez largement les Hispaniques d'ailleurs étaient beaucoup plus touchés par l'épidémie que les Blancs. En gros, il y a 13% de Noirs dans la population, mais 26% des personnes contaminées sont Noires. Et parmi les malades hospitalisés, les Noirs sont aussi 4,5 fois plus représentés que les Blancs non hispaniques, par exemple. Alors, l'une des explications, c'est leur état de santé général, hein, est préexistant. Les Noirs sont plus souvent obèses, asthmatiques, diabétiques, et donc tout ça a favorisé les complications et donc malheureusement les décès. Et tout ça reboucle évidemment avec les questions de pauvreté et d'éducation. Avant le coronavirus, les Afro-Américains avaient déjà une espérance de vie inférieure de plus de 3 ans aux autres.
Et Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a même déclaré que cette pandémie et ses manifestations mettent en évidence les discriminations raciales endémiques aux États-Unis. Véronique, à Minneapolis et dans d'autres grandes villes, des policiers aussi s'insurgent contre la violence faite aux minorités aux États-Unis et appellent au calme. Le monde politique aussi est en ébullition avec un mot d'ordre, réformer la police.
Il y a eu l'an dernier 1100 personnes tuées par des policiers aux États-Unis et près d'une sur quatre étaient noires, donc c'est 10 points de plus que leur part dans la population. Mais beaucoup de gens tiennent quand même à faire la différence entre bons et mauvais policiers. Ils veulent pas faire d'amalgame et c'est pour ça qu'on a vu des scènes de fraternisation assez soutenues entre manifestants et policiers. Et maintenant, ce que disent certains politiques, c'est profitons au moins de cette crise pour voir comment avancer. Alors, il y a des tas de pistes qui sont à explorer. C'est un peu à 360 degrés. L'une de ces pistes, c'est de dire aux gens participer davantage à la sélection des chefs de la police, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, les shérifs et certains juges sont élus et sont donc affiliés au Parti démocrate ou républicain. Et ce sont des élections qui mobilisent très peu. Barack Obama a d'ailleurs lancé un appel en disant qu'il fallait se réinvestir dans ces élections. On pourrait quand même se demander d'ailleurs si c'est bien utile d'être élu et de devoir choisir un camp politique pour faire carrière dans la police et la justice. Mais ça, c'est un peu le poids de l'histoire de l'organisation américaine. Un autre débat important, c'est le pouvoir des syndicats de policiers. Ils sont très puissants, ils signent des contrats avec les maires et les villes se retrouvent parfois avec les mains liées quand il y a une bavure parce que ces contrats sont très protecteurs pour les policiers. Le gouverneur de New York a aussi parlé des conflits d'intérêts entre les procureurs qui investiguent et les services de police, en disant ils travaillent tous les jours ensemble, donc le jour où il faut enquêter, c'est compliqué. Donc il suggérait de dépayser certaines enquêtes et puis aussi d'avoir accès aux dossiers disciplinaires des agents. Et puis au-delà de ça, il y a quand même un consensus aujourd'hui sur l'idée de former davantage les policiers aux techniques de désescalade et de leur interdire certaines pratiques physiques. Mais il faut aussi se rendre compte quand même que les policiers sont dans un pays surarmé et qu'il y a donc énormément de nervosité chez les forces de police quand elles interviennent.
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas conseillé, par exemple, de sortir de sa voiture lorsqu'on est arrêté pour un contrôle de police, effectivement, aux États-Unis. J'ai des amis qui en ont fait l'expérience, c'est vraiment pas à faire.
Ouais, surtout pas se pencher sur le siège passager pour saisir son sac ou quoi que ce soit. Ouais.
Plusieurs entreprises, et non des moindres, ont aussi réagi, Véronique ?
Oui, il y a une série d'entreprises qui ont diffusé des messages antiracistes, prônant l'unité, le rassemblement. Les équipementiers sportifs comme Nike ou Reebok ont réagi, Netflix aussi, ou même la banque Citigroup. Alors, il y a un peu de tout dans ces réactions. Évidemment, il y a de la sincérité, mais parfois aussi une certaine hypocrisie qui est d'ailleurs rapidement dénoncée. Ça a été le cas de YouTube, qui dénonce à la fois les discriminations, mais en même temps laisse diffuser dans ses vidéos certains messages de haine. Le mouvement le plus intéressant pour l'instant, c'est probablement Twitter, hein, qui a signalé des messages de Donald Trump comme faisant l'apologie de la violence. Donc ça a été un peu une innovation. Et puis Snapchat là, vient de faire aussi un message un peu dans ce sens-là.
Il y a Ken Frazier, qui est le PDG du laboratoire pharmaceutique Merck. Lui, il dénonce les platitudes des entreprises et il demande des actes.
Oui, Ken Frazier, c'est l'un des très rares patrons afro-américains. Hein. C'est l'un des rares aussi à prendre la parole, hein, au-delà des communiqués de presse. Après les événements de Charlottesville en 2017, il avait déjà démissionné d'un conseil de chef d'entreprise mis en place par Donald Trump pour protester justement contre le discours de Trump. Et aujourd'hui, il dit « prenons des mesures concrètes pour casser un peu la spirale d'inégalité ». Il propose notamment d'ouvrir beaucoup plus largement l'accès des jeunes noirs aux écoles d'élite. C'est comme ça que lui a réussi, voilà, alors qu'il venait d'un milieu modeste à Philadelphie.
Bank of America, de son côté, s'est engagé à verser $1 milliard en 4 ans en faveur de la lutte contre les inégalités économiques et raciales exacerbées par la pandémie de coronavirus. Alors forcément, on attendait sa réaction. Donald Trump a pris la parole. On n'a pas été déçus. Si une ville ou un État refuse de prendre les décisions nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses résidents, je déploierai l'armée américaine pour régler rapidement le problème à leur place. Véronique, il joue la loi et l'ordre comme partition. Comment est-ce que ces propos ont été accueillis ?
Alors, deux choses sont mal passées. D'abord, menacer d'envoyer l'armée contre le peuple américain. Pour beaucoup, c'est une ligne rouge. Voilà, ce qui se passe normalement dans des cas de troubles civils, c'est que l'État envoie la garde nationale, qui est une sorte de corps de réserve, et qui intervient aussi pour les catastrophes naturelles. D'ailleurs, la garde nationale, on l'a vu notamment pour la gestion de la pandémie. Envoyer des soldats, c'est vraiment un cran au-dessus. Et d'ailleurs, même le ministre de la Défense, Mark Esper, vient d'exprimer son hostilité à un recours à l'armée. Et puis le deuxième élément qui a choqué, ça a été l'image de Donald Trump allant devant une église proche de la Maison-Blanche et brandissant une Bible. Voilà, l'Amérique est religieuse, le président prête serment sur la Bible. Mais beaucoup de commentateurs y ont vu un peu une instrumentalisation à destination de son électorat. En plus, il a fallu déloger des manifestants pour accéder à l'église et ça a été très mal perçu. Voilà. Après, c'est plus difficile de savoir ce que pensent les électeurs de Donald Trump. Il dit lui-même, c'est la majorité silencieuse, sont les blancs des classes populaires et moyennes. Donc, on verra un peu dans les jours qui viennent quelle sera un peu la réception de son électorat à ce message.
Et il y a eu aussi cette scène inimaginable sur CNN. Une journaliste interroge le chef de la police de Houston et lui rapporte les propos de Donald Trump, qui dit à la police qu'elle doit dominer la situation et les émeutiers. Écoutez la réponse d'Art Acevedo.
Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut, because you're putting men and women in their early 20s at risk.
Je voudrais dire au président américain que s'il n'a rien de plus constructif à dire, il ferait mieux de la fermer, car il met en danger des hommes et des femmes. Et il ajoute, il ne s'agit pas de dominer, mais de gagner les cœurs et les esprits. C'est presque une leçon de démocratie. Véronique, la stratégie de communication de Trump face à cette crise accroît un peu plus les tensions entre la Maison-Blanche et certains gouverneurs américains, notamment démocrates, en cette période électorale.
Oui, les gouverneurs ont été en première ligne pendant la pandémie pour gérer le confinement, la gestion des hôpitaux. Et ils ont été dans un constant ajustement avec Washington, à la fois pour dénoncer son manque de leadership, mais aussi pour le remercier quand il leur venait en aide. Alors là, par exemple, à New York, Andrew Cuomo a sévèrement critiqué le discours sécuritaire de Donald Trump, mais il a aussi critiqué le maire de New York, qui est pourtant un démocrate comme lui, pour ne pas avoir été plus ferme face aux casseurs dans la ville. Donc, à nouveau, on voit une situation un peu ambivalente.
Alors, après le coronavirus qui plombe la croissance et l'emploi aux États-Unis, Trump fait face à une nouvelle crise d'ampleur.
Les chiffres du chômage ont choqué aux États-Unis. En 2 mois, on a eu 40 millions de personnes qui ont demandé des allocations chômage. Le taux de chômage est aujourd'hui autour de 20%, pas loin. Et le PIB du deuxième trimestre va enregistrer un recul historique autour de 10%. Mais ce qu'on entend en France, si on veut relativiser, c'est 20%. Après déjà un premier trimestre plus creux en France. Le problème de cette nouvelle crise, c'est qu'elle arrive au moment où tout le monde se déconfine aux États-Unis et où l'activité pouvait redémarrer. Et on sait bien que ce genre d'événement, c'est jamais bon pour ni le tourisme ni le commerce, qui sont des piliers de l'économie et encore plus peut-être ailleurs qu'ailleurs aux États-Unis.
Joe Biden, un candidat démocrate à la Maison-Blanche, a accusé Trump d'avoir transformé ce pays en un champ de bataille, divisé par les vieux ressentiments et les peurs nouvelles. Il pense que la division l'aide pour remporter la présidentielle. Alors est-ce que cette colère peut relancer aussi la campagne de Joe Biden, qui est longtemps resté confiné dans l'état du Delaware en raison de l'épidémie de Covid-19.
Les inégalités raciales, la lutte contre les violences policières, sur le papier, ce sont des sujets sur lesquels les démocrates ont des choses à dire, évidemment. La question, c'est quel électorat va-t-il attirer ? Parce que les Noirs ont déjà voté à 88% démocrates en 2016, pour Hillary Clinton. En revanche, leur taux de participation avait chuté de 7 points par rapport à l'ère Obama. Donc l'enjeu pour lui, c'est de leur apporter des réponses concrètes. Et pour l'instant, c'est un peu court, mais il reste sur le registre du discours. Alors il a fait un discours très présidentiel à Philadelphie ces derniers jours, en prônant la réconciliation du peuple américain. Voilà, son pari, c'est peut-être de rallier une partie des républicains modérés aussi, ceux qui jugent que les Noirs et les Blancs ne sont pas traités de la même manière et qui ne se reconnaissent pas dans le discours de Trump.
Les manifestations et les émeutes ont un énorme retentissement à l'étranger. On assiste à de nombreuses manifestations mêlant Noirs et Blancs dans de nombreux pays pour dénoncer l'injustice et la violence. Et certains pays comme la Chine ou l'Iran s'en donnent à cœur joie pour dénoncer le racisme qui gangrène les États-Unis. Le conseiller pour la sécurité nationale du président Donald Trump, Robert O'Brien, a même qualifié la Chine, la Russie, l'Iran et le Zimbabwe sur cette affaire d'adversaires étrangers. Nicolas, la crise prend une dimension internationale ?
Oui, c'est surtout un moyen pour de nombreux pays de placer l'Amérique face à ses contradictions et de reprendre la main au niveau diplomatique, alors que Donald Trump lui-même ne se gêne pas en général pour critiquer la politique intérieure de certaines puissances, qu'elles soient rivales ou alliées. Un autre risque existe, celui de la désinformation. On a vu apparaître de nombreux messages, des rumeurs au cours de ces manifestations, et il semblerait que la Russie, notamment, tente d'utiliser les divisions du pays pour faire circuler de fausses informations, comme elle l'avait fait notamment lors de l'élection présidentielle. En tout cas, plus que jamais sur la scène internationale, les États-Unis semblent aujourd'hui fragilisés et isolés.
Let's do this another way. Let's stop thinking that our voice don't matter. That's right. And vote.
There you go. Vote.
Not just vote for the president, vote for the preliminaries, vote for everybody. Educate yourself.
Arrêtez de penser que notre place n'a pas d'importance et votez pas seulement pour le président, pour les primaires. Informez-vous. On a entendu un Terence Floyd, c'est le frère de la victime, il appelle au calme et il appelle à voter. Sachez pour qui vous votez, dit-il un peu plus loin, mais s'il vous plaît, faites-le de façon pacifique. Alors justement, Nicolas Rolline, qu'est-ce qui peut ramener le calme ?
Ça dépendra en premier lieu des suites de l'affaire Floyd. Si les policiers en cause sont bel et bien poursuivis et mis en examen pour des charges importantes par le procureur du Minnesota, cela pourrait calmer un peu les manifestants, leur faire penser que le système judiciaire américain peut encore fonctionner de manière normale. Mais il faudra sans doute des actions de long terme pour réellement faire changer les mentalités. Certains réclament par exemple une réforme en profondeur de la police, l'interdiction de certaines pratiques, une commission pour superviser un peu les pratiques policières. C'est notamment ce que propose Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Et puis aussi une réforme du système judiciaire, ou encore un gros travail effectué sur l'éducation, à la fois au niveau fédéral et dans les États.
Et dans la nuit de mercredi à jeudi, on a appris que le policier à l'origine de la mort de George Floyd était maintenant poursuivi pour meurtre non prémédité et non plus pour homicide involontaire. Il risque 40 ans de prison. Ses trois collègues sont aussi accusés de complicité. Les obsèques de George Floyd auront lieu le 9 juin à Houston. Rest in peace.
How sweet the sound that saved a wretch like me.
Mm-hmm. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos correspondants aux États-Unis, Véronique Le Billon et Nicolas Rollin. Prenez soin de vous, les amis. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous et partagez vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur le site leséchos.fr.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.